Radio Capi, grand témoin.
Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans cette émission Grand Témoin qui vous présente le parcours des personnalités témoins de l'histoire du Congo. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le maire de la ville de Kolwezi, maître Jacques Massengo Kindele. Qui est Jacques Massengo? Quel est son parcours et quelle est sa vision du développement de Kolwezi? Je vous invite à les découvrir dans ce magazine. Jeudi, Daniel Kachama au micro, à la technique, Dieudonné Nyangasa.
Le grand témoin.
Monsieur le maire Jacques Massengo Kindele, bonjour.
Bonjour, c'est Kachama.
Bienvenue dans cette émission Grand Témoin. La première question est de savoir qui est Jacques Massengo Kindele.
Jacques Massengo Kindele est né le 6 juin 1976. Il est issu d'une famille de 11 enfants, dont 6 garçons et 5 filles. Des pères Kaftamakonga Louis et des mères Tijik Lsomp Jeanne. Mon père était administratif, il a fait carrière dans l'administration debout, donc il était commissaire des zones assistant pendant plusieurs années jusqu'à la dernière année de sa retraite en 2000.
Et votre mère?
Ma mère, c'était une ménagère, elle s'occupait vraiment de sa famille. Elle n'a pas eu un parcours professionnel, au vrai sens du terme. Donc, elle restait à la maison avec nous, ses enfants. Et c'est comme ça que nous avons profité vraiment de son encadrement et de son éducation en tant que mère de famille.
Alors, parlez-nous de la vie en famille avec vos frères et sœurs. C'était quoi l'ambiance? Quelles sont les valeurs que les parents vous ont transmises?
En tout cas, nous... C'était une ambiance à bon enfant. Nous sommes une famille chrétienne. Une famille chrétienne méthodiste, protestante méthodiste. Et nous avons grandi sous l'influence de la foi de notre père, qui nous a éduqués, qui nous a élevés, des fois dans des écoles méthodistes, des fois dans des écoles catholiques, tout en conservant notre ligne directrice, qui est dicté par la foi chrétienne. Et donc nous avons grandi dans la foi chrétienne, protestante, des confessions méthodistes.
Et là, c'était où? Toujours ici, dans l'île de la Barre?
Non, je suis né à Kasaji. À Kasaji, c'est aujourd'hui la deuxième ville de la province du Lualaba. Et mon père, à l'époque de la deuxième République, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un fonctionnaire public qui a fait carrière dans l'administration debout.
Donc, c'est quoi l'administration debout?
L'administration debout, donc, c'est l'administration qui faisait bouger ses fonctionnaires par démutation.
Ah, et nous avons, qu'on appelle l'administration debout.
Oui, nous avons connu vraiment beaucoup de mutations, beaucoup de mouvements.
À travers
les Katanga. Avec mon père, je crois que nous avons fait presque tous les sud du Katanga, tous les territoires du Katanga, parce que mon grand frère aîné, permettez la tautologie, à Kisenge, c'est dans les territoires de Dilolo. Ma grande sœur qui l'a suivi, elle est née à Kapanga. Et ma troisième sœur aussi, qui est née aussi à Kapanga. La quatrième aussi à Kapanga. La cinquième est née à Kolwezi. Et la sixième aussi à Kolwezi et moi à Kasaji. Donc on était en perpétuelle mutation. C'est comme ça que nous avons beaucoup bougé et nous avons eu la chance de découvrir vraiment aujourd'hui les Lualaba profonds et les Katanga profonds.
Avec ces réalités.
Avec ces réalités, oui.
Alors parlez-nous de quelques anecdotes ou des souvenirs qui ont marqué votre enfance. Des bons et des mauvais, si y en a, bien sûr.
Oui, pour ce qui est des mauvais, je commence par ce qui était mauvais. Oui. Je me rappelle quand j'étais en cinquième primaire, ici à l'Epe Mwanga Taifa, donc à côté ici à Kolwezi. J'avais connu une enfance quand même très mouvementée avec des amis. Et j'avais connu un ami à l'école. Il ne voulait pas vraiment la classe.
Je voulais pas
étudier. Il voulait pas étudier. Alors, il m'a vraiment entraîné dans ces mouvements-là. Parce qu'à l'époque de la grande Gécamines, il y avait des mouvements de bus. Des bus qui transportaient les élèves de la cité jusqu'à l'école et vice versa.
Oui.
Alors nous, avec mon ami là, on profitait de ces mouvements là pour s'arranger
vers l'école
missionnaire pour profiter des bus là,
oui.
Faire des va-et-vient jusqu'à l'heure de la sortie et puis on se présente à la maison comme si on était en classe.
Oui.
Et un jour, nos mamans se fréquentaient aussi. Ce soir a dit compte que bon, les enfants ici, on ne voit pas clair dans ce qu'ils font. Il faut qu'on fasse quand même un petit tour à l'école pour demander si réellement ils étudient.
Oui.
Et quand ils sont arrivés à l'école là-bas, bon, ils ont posé la question sur notre présence et notre fréquence au cours. Et vraiment, elles ont été très déçues d'apprendre que ça faisait presque jusqu'au moment où elles étaient venues nous voir. Ça faisait presque un mois
que les enfants ne fréquentaient pas
l'école. Et quand elles sont rentrées, elles étaient à deux, elles nous attendaient. Quand nous sommes rentrés, nous pensant que nous allons jouer
mon petit malin.
Et on arrive là comme ça, ben on prenait des précautions quand même. Hein.
Ouais.
Et quand on s'absente comme ça, on prend les cahiers, on complète les notes.
Les notes, vous
on se donne. On se donne des cotes et puis. Quand elle nous aperçoit comme ça, elle nous dit, bon, donnez-nous d'abord ce que vous avez étudié aujourd'hui.
Mmh.
On se précipite, on donne. Malheureusement pour nous, ces jours-là, on n'avait pas mis la date de ces jours-là.
Oui.
Et on nous a pris à partir de là, on nous a sérieusement corrigé et c'est vraiment le mauvais souvenir que j'ai gardé de mon enfance avec cette compagnie-là qui voulait me détourner de la voie sur laquelle mon père m'avait engagé.
Alors les bons souvenirs.
Oui, les bons souvenirs toujours au niveau de mon enfance. J'avais connu un cousin qui est venu de Walemba parce que Walemba c'est presque notre village natal, notre village d'origine si je peux bien le dire. Alors il était venu poursuivre ses études techniques ici à Kolwezi. Alors il avait trouvé le logement chez nous. Alors, à chaque fois, il s'intéressait à moi. Il me parlait sur la parole de Dieu et j'ai trouvé que c'était très intéressant. En tout cas, c'est celui-là qui m'a influencé vraiment lorsque j'ai atteint l'âge de la raison pour que je puisse prendre la décision de quitter la foi méthodiste avec laquelle j'ai été éduqué.
Oui.
Pour que je puisse prendre une autre voie. La voix du tabernacle, la voix du message du temps de la fin, que j'ai continué à garder. J'ai continué à garder jusqu'à ces jours. Donc, pour moi, c'est vraiment un très bel souvenir que je garde de ces cousins-là. Et à chaque fois que je les vois, je ne cesse de rappeler ces faits-là. Et malheureusement, lui-même qui m'avait amené là-bas, il a déjà abandonné cette foi-là.
Il m'a laissé
sur la voie de cette foi-là et je ne me plains pas, je m'en réjouis parce que j'ai rencontré mon Dieu et je l'adore selon les principes bibliques.
Bien, Jacques Massengo Kindele, parlez-nous de votre parcours scolaire et académique, vos études. Ouais, dites-nous un peu comment ça s'est passé.
Oui, en tout cas, à l'époque, on n'avait pas d'école maternelle, donc je commence mes études primaires à Sakagna. Nous étions déjà en mutation à Sakagna. Mon père était commissaire des zones assistant à Sakagna. Je commence chez les prêtres au niveau de Sakagna. Et malgré les mouvements que nous avons connus dans les déplacements avec mon père, mais je suis parvenu à parachever mes études primaires. D'ici à Kolwezi.
Chez les jésuites?
Je pense. À l'époque, on n'avait pas vraiment une connaissance approfondie, hein,
oui.
Par rapport aux différentes confessions dans l'église catholique.
Oui.
Mais je sais que c'est dans les écoles des prêtres que j'ai eu à à faire mes premiers pas dans mes études primaires. Je les ai commencées en 1982 pour venir les parachever ici à Kolwezi, toujours chez les prêtres, mais à l'Institut Mwanga wa Taifa, à l'épée Mwanga wa Taifa, en 1988. Et après avoir terminé mes études primaires, mon père m'a envoyé chez les méthodistes, donc à l'Institut Technique Mungamo, chez les méthodistes ici à Kolwezi. Là, j'ai passé 2 ans. Comme mon père voulait que je puisse vraiment être agronome.
Ah, c'était ça son souhait.
Oui, oui, c'était ça son souhait, parce que à chaque fois, il nous conduisait, il nous prodiguait des conseils pour travailler la terre, valoriser la terre, chercher la richesse à partir de la terre.
Il avait lui-même un champ, je suppose.
Oui, partout où on passait, on ne pouvait pas manquer un champ. Mais comme l'imitation là était récurrente, on n'avait pas le temps de s'installer vraiment une année, 2 ans.
2 ans, vous bougez.
Oui, on bougeait. Il arrivait des fois, on pouvait connaître 2 mutations. Au cours d'une seule année, vous avez 2 mutations. Alors, ça nous déstabilisait. Heureusement que, à l'époque, l'administration était tellement organisée que on avait des maisons de passagers. Quand vous arrivez là-bas, vous venez seulement avec vos valises. Là où il y a les habits, vous trouvez tout.
Vous trouvez tout
est déjà installé et déjà mis en place. Et les jours où vous quittez, vous prenez seulement vos valises et vous partez. Donc c'était facile pour nous de se déplacer, que si ça pouvait être aujourd'hui, je crois que ça devait être très difficile pour beaucoup de familles de faire les mouvements que nous faisions.
Alors, donc vous avez fait une formation en agronomie?
Non, je voulais faire la formation en agronomie. Oui. Mon père voulait, mais moi je ne voulais pas. Moi je ne voulais pas vraiment être agronome.
Et qu'est-ce
malheureusement, que vous... oui, malheureusement, il m'a forcé. Je suis allé à Kanzenze, à l'ITA de Kanzenze, Institut Technique Agricole de Kanzenze. Je suis allé là-bas vers les années 90. Arrivé là-bas, j'étais en 3e des humanités agricole. Et j'ai regardé comment on nous traitait là-bas. Donc, quand vous allez au cours à 8 heures, vous quittez à 13 heures, à 13h30, on vous invite d'aller dans les champs de pratique. Et vous rencontrez beaucoup d'obstacles. Donc, ça ne m'arrangeait pas. Alors, j'ai pu tenir là-bas pendant presque 2 semaines. Et pendant les vacances de Noël, quand le temps est arrivé de rentrer, je suis rentré. Et mon père voulait que je puisse maintenant intégrer l'internat, parce que à la première fois quand je suis arrivé là-bas, j'étais logé chez mon cousin qui était enseignant à l'EPMI Kuba de Kanzenze. Oui, oui. Alors, quand je suis rentré, mon père a préparé tout pour que je puisse entrer maintenant dans l'internat à Kanzenze.
Kanzenze Mission, c'est...
Kanzenze Mission, 56 kilomètres, je pense, si j'ai bonne mémoire. Alors, les jours où je devais partir, mon père très enthousiasmé, tous mes frères qui m'entouraient, ils m'encourageaient pour que je puisse aller intégrer l'internat. Mais moi, j'y allais à contre-cœur. Curieusement, je prends les véhicules avec mes effets. J'arrive à Kanzenze, je descends, je laisse mes effets dans les véhicules, je cours directement vers l'internat pour faire semblant, parce qu'on m'avait confié auprès du chauffeur. C'est le chauffeur qui veillait sur moi, le chauffeur qui m'avait conduit là-bas, pour faire semblant que je voulais ce que je voulais faire. Oui. Mais je descends, j'arrive à l'internat, 10 minutes après je rentre, j'interpelle le chauffeur pour lui dire que non, je viens de contacter les directeurs d'internat. Il me dit que malheureusement il n'y a plus de place, donc je dois rentrer avec vous.
Oui.
Alors,
et
il n'a pas pris le soin de vérifier directement. Et il m'a donné la place et je suis rentré. Moi qui avais quitté la maison vers 13h et vers 18h, 19h, je rentre encore. Mais pourquoi? Je dis non. Malheureusement, à l'internat, là où vous m'avez envoyé, il n'y a plus de place. Alors mon père était très, très, très découragé par rapport à ça. Le lendemain, l'argent qu'on m'avait donné, je me suis débrouillé pour aller moi-même me faire inscrire à l'Institut Amani chez les Kimbanguistes, en 3e maths physique. Et j'ai terminé cette année là-bas. Je suis passé en 4e des humanités. Comme mon père a connu encore une autre mutation vers le territoire de Mouchacha, comme administrateur du territoire là-bas, alors mon père m'avait dit que non, je ne peux pas te laisser parce que tu as déjà de mauvaises fréquentations. Je sens que tu ne veux pas vraiment pousser dans le sens de faire les études. Comme ça, je t'amène avec moi. C'est comme ça que je me retrouve en 93 à Muchacha, à l'Institut Muchacha, en quatrième des humanités. Cette fois-là, pas en maths physique, mais en pédagogie générale. Et c'est comme ça qu'en 1995, j'ai pu décrocher mon diplôme d'État en pédagogie générale à l'Institut Muchacha.
D'accord. Et ouais. Maintenant, au niveau supérieur?
Au niveau supérieur...
Vous avez fait les droits, c'est
vrai? Oui, au niveau supérieur, maintenant, les ambitions d'être avocat, d'être magistrat, ont commencé à naître petit à petit en moi. Comme ça qu'en 1996, j'ai fait mes valises à l'université de Lubumbashi. Là, je trouve vraiment un autre monde. Je trouve un auditoire où vous êtes à plus de 1500 étudiants. C'était très très étrange pour moi. Oui. Pour m'adapter, c'était compliqué. C'est comme ça que j'ai raté la première année là-bas. De retour pour les vacances ici à Colosi, je découvre que l'université de Lubumbashi commence à créer des extensions qui représentent l'université dans des villes et qui deviendront plus tard des centres universitaires et pour devenir les universités. Et c'est le cas de l'extension de Colosi qui est devenue plus tard les centres universitaires et plus tard aujourd'hui l'université de Colosi. Donc nous sommes au fait la première promotion de cette université à l'état embryonnaire en tant qu'extension de l'université de Lubumbashi. J'en ai profité pour m'inscrire à la faculté des droits. C'est comme ça que j'ai commencé normalement mon cursus en 1997 et pour terminer à l'université de Lubumbashi en 2002. À la faculté des droits, en département des droits publics international. Voilà comment se présente de façon exhaustive mon parcours scolaire, primaire, secondaire
et universitaire. Et plus tard, vous êtes devenu enseignant, vous êtes enseignant à l'université.
Oui.
Chef des travaux.
Oui, plus tard, le goût de la recherche est venu à moi, commencer à me pousser à faire des recherches dans le domaine des droits constitutionnels, droits administratifs. Il a plu à l'époque parce que je venais d'être nommé assistant à l'université de Likasi à ce moment-là, en 2012. Et on nous avait soumis à un rythme de recherche très poussé, à telle enseigne que de 2012 seulement à 2016, je suis sorti, j'ai publié les articles qu'il fallait publier pour répondre aux critères d'être promis comme chef des travaux. Comme j'étais assistant d'enseignement, il me fallait des publications. Maintenant, les exigences de l'époque voulaient c'est que nous puissions faire des publications sur le plan international. Et nous avons eu la chance là d'avoir des circuits qui nous ont permis de faire des publications au niveau international et c'est comme ça que ça n'a pas
mais au niveau de l'université, il n'y avait pas de revue scientifique.
Ah non, en tout cas, ici chez nous, il n'y en avait pas. J'ai publié dans les revues scientifiques de l'université pédagogique de Kinshasa et une autre publication, je l'ai fait au niveau international avec la fondation Eisenhower des Allemands croates.
Adenauer,
oui. Oui, oui, c'est comme ça que en 2016, il a pris aux autorités de tutelle de me nommer chef des travaux. En même temps, je faisais les recherches ici au niveau de l'université de Colosi. En même temps, je faisais la même chose à l'université de Likasi. Ce qui fait que lors des nominations, j'ai été nommé chef de travaux à l'université de Likasi et chef de travaux à l'université de Colosi. Maintenant, le choix était entre mes mains pour que je puisse choisir dans quelle université je voulais évoluer. C'est comme ça que j'ai porté mon choix sur l'université de Colosi.
Quelles sont vos distractions préférées, vos détentes préférées? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus?
En tout cas, moi je suis fermier aussi. Alors, ma distraction préférée,
C'est la brousse.
C'est d'aller dans la brousse, aller voir comment...
aller faire les champs.
Les champs.
L'élevage.
L'élevage, contempler la nature. Mmh. Ça, c'est ma première détente préférée. Et la seconde, c'est la lecture, parce que je suis chercheur. Mmh. Et je suis doctorant à l'université de Lubumbashi. Nous sommes en train de faire des recherches pour défendre les mémoires des diplômes d'études approfondies et pour que plus tard nous puissions soutenir la thèse en droit et devenir professeur, pourquoi pas terminer professeur ordinaire si Dieu le permet.
Mmh. Oui, oui. Et du côté de la musique, est-ce que vous avez des cantiques préférés?
Oui, oui, du côté de la musique, vraiment, je suis fondamentalement chrétien. Oui. Donc, ma distraction en termes de musique, c'est la musique chrétienne.
La musique chrétienne.
La musique chrétienne, la lecture de la Bible. Oui, 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 ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup plus.
Bien, on va marquer une pause. On va suivre juste une chanson et on se retrouve juste après.
Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Prophète Dominique Kone, la réserve de l'Éternel, Moïse Mbiye.
Obonanga utalibu mwa mama na yeba kutute. Ozanzamba malamu talaka mabea motote. Soki pona masumu ndio benga David lom selon ton cœur te. Ozanzamba malamu nzambe abuna mona na mute. Soki opesi moto vision. Au pire qu'à provision. Même si mes péchés sont comme des cramoisis, ils deviendront blancs comme une neige. Je compte sur ta grâce. Zamba baboto, Zamba malamoué, Namon nananouté.
Pasteur Ken Lomba, l'apôtre Kérok,
Naye Koni. Comme un sacrifice à vivant dans tes parvis, mon Dieu, ça la nanganya solini. Coupable que je suis, elle qui en a mon tema. Beaucoup fa ponanga, pour c'est quoi ponanga, Jésus. Na loboko ya droite, ya papa, osa quoi intercéder. Mon avocat auprès du Père, c'est toi. Aussi quand kembondi miola danzo, toi ma soumou, ponanga. Héritier n'a comme à mon satou. Au bientôt la maïa. Au cano la maïa. Au limionio, quoi ma na fimo. La écoulouse, y'a soumana. Pour ma na bikae.
Radio Capi, grand témoin.
Le magazine Grand Témoin reçoit aujourd'hui Maître Jacques Massengo Kindele, maire de la ville de Kolwezi.
Alors, parlez-nous à présent de votre carrière. Comment vous avez évolué d'abord dans une entreprise familiale et ensuite une entreprise minière et puis à la fin, vous vous retrouvez en politique. Pouvez-vous nous retracer ce parcours?
J'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui avait déjà un parcours. Et il était ambitieux, il a mis en place une société commerciale qui s'est dénommée Société Agricole et Commerciale. Et il m'avait chargé d'organiser le secteur des transports parce que cette société-là avait 3 départements, le département agricole, le département des transports des personnes et des biens et le département commercial. Mais il a plu à ce que moi, qu'on me soit confié les responsabilités des chefs de département en charge des transports. Et mon grand frère avait un chalois important. Ceux qui ont évolué du côté de l'Ikasi, ils connaissent les bus qui portaient le nom des chaînes de Bitumba. Donc, c'était des bus qui faisaient les tronçons Lubumbashi, l'Ikasi et Lubumbashi Kolwezi. Donc, j'avais eu la charge de gérer ces départements pendant 2 ans. Après avoir été chef de département dans cette société, et j'ai décidé de quitter pour chercher par moi-même comment je pouvais me stabiliser dans la vie. Parce que il y avait déjà une année passée que je m'étais marié, que j'avais rencontré ma femme Gisèle Kat Ukai, que je l'ai rencontrée à Nkassi, et nous avons contracté notre mariage le 8 novembre 2003. Okay. Et de cette union-là avec ma femme, nous avons aujourd'hui 6 enfants, okay, dont 4 garçons et 2 filles. Okay. Voilà, donc il fallait que je puisse maintenant savoir comment voler de mes propres ailes. Comme ça que
vous avez au besoin de la famille.
Ouais, 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 c'est comme ça que j'ai décidé d'abandonner, de quitter la société familiale pour aller essayer de me débrouiller moi-même. C'est comme ça que en retournant ici à Colusie, j'ai eu l'opportunité d'être sollicité par une société qui traitait les cuivres, qui s'est dénommée Emitra, East Mineral Trading.
Ça n'existe plus aussi.
Ça n'existe plus, malheureusement. Nous avions travaillé là-bas pendant presque 2 ans. Et mes ambitions de devenir avocat, le moment était venu maintenant là-bas, parce qu'il fallait que je me prépare pour aller présenter les tests d'admission au niveau du barreau du Katanga. Parce qu'à l'époque, le système venait d'être changé. Pour être avocat, il fallait passer par les tests d'admission. Et nous sommes allés, nous avons passé les tests d'admission avec satisfaction. Et c'est comme ça que, à partir de 2010, je suis devenu avocat assermenté au barreau du Katanga, près la cour d'appel de Lubumbashi. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière et ma profession en tant qu'avocat. En tant que tel, je me suis dit que, comme en tant qu'avocat, il n'y a pas de restrictions, et il fallait que je voie comment intégrer le monde politique. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à côtoyer la politique.
Et comment s'est fait le passage? Est-ce que vous avez senti en vous cette vocation d'intégrer la politique? Comment ça s'est passé concrètement?
Oui, j'ai décidé d'entrer en politique en passant par la formation politique de l'époque qui appartenait au président de la République, donc le PPRD. J'ai cheminé là-bas pendant beaucoup d'années jusqu'à ce que il avait plu aux autorités de l'époque de me confier la charge d'être maire adjoint de la ville de Colusie depuis 2016. Et vers 2019, à l'avènement du pouvoir actuel, j'ai été sollicité pour que je puisse intégrer le parti politique IDPS. Et aujourd'hui, j'en suis membre effectif et influent au niveau de la Fédération des Colusies. C'est en cette qualité-là que, vers la fin de 2022, le président de la République actuelle a pris une ordonnance qui a amené des nouvelles animateurs des entités territoriales décentralisées et des entités déconcentrées qui sont les territoires aux affaires. Et j'en ai profité aussi de cette nomination pour que je sois nommé à la tête de la ville de Colusie depuis 18 novembre 2022 jusqu'à ce jour.
Jusqu'à ce jour, vous avez totalisé à peu près combien, 10 ans à la tête de la mairie ici.
Non, jusqu'à aujourd'hui, comme maire adjoint, j'ai fait 7 ans. Et comme maire titulaire, j'ai maintenant 3 ans.
Ok, donc ça nous ramène à 10 ans.
Ça nous ramène à 10 ans exact.
Alors, 10 ans à la tête de la mairie de Colusie.
Oui.
Qu'est-ce que cela représente pour vous?
Oui, vraiment, c'est une expérience inoubliable dans ma vie. Et puis, c'est un privilège incommensurable, hein, si je peux, vous pouvez permettre les termes, que j'ai bénéficié des autorités qui nous gèrent et de la confiance que j'ai auprès de la population de la ville de Colusie, à qui je remercie pour leur accompagnement, leur soutien à tout ce que nous entreprenons comme action de développement au sein de notre juridiction qui est la ville de Colusie.
Alors, en tant que maire de la ville, vous êtes là pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, la salubrité public aussi. Alors, quel bilan on peut faire, même en termes de dans les domaines des infrastructures,
Alors, quel bilan on peut dresser 10 ans après dans chaque secteur, infrastructure, sécurité et puis assainissement?
Merci beaucoup. Effectivement, comme en tant qu'autorité publique, nous avons la mission de maintenir l'ordre public. Et l'ordre public a 3 facettes. Il y a la salubrité publique, la tranquillité publique et la sécurité publique des personnes et des biens. Nous en avons la charge. Et le bilan, en tant que maire adjoint, je crois que c'est un bilan partagé et je ne vais pas beaucoup plus m'attarder sur ça. Mais moi, je voudrais m'attarder sur mes 3 années que je viens de passer à la tête de la ville en tant que maire de la ville. Parce que c'est moi qui définis la politique de la ville, c'est moi qui ai la vision de développement de cette ville. Donc, j'en suis le comptable numéro 1. Alors, en termes de la sécurité publique, lorsque nous avons été portés à la tête de la ville, nous avons trouvé qu'il y avait un déficit en termes de mobilité des Charrois au niveau de la police nationale congolaise. Oui, il n'y avait presque pas de Charrois qui pouvaient permettre à la police de sécuriser les personnes et leurs biens,
d'organiser les patrouilles.
Donc, d'organiser les patrouilles, de faire face au phénomène des enfants de la rue, au phénomène coupeur des routes. Hein, à toutes sortes de criminalités au niveau de la ville. Alors, j'ai décidé pour que nous puissions doter notre police des moyens conséquents. C'est comme ça que nous avons acheté au profit de notre police 10 Jeep Land Cruiser Pampa 9 que nous avons présenté à Madame la gouverneure de province pour soutenir aussi les efforts qu'elle ne cesse de déployer dans les secteurs au profit de la province en général et de la ville en particulier. Ça, nous l'avons fait. Non seulement nous avons acheté les Charrois, qui étaient constitués de 10 Jeep Land Cruiser, mais nous nous occupons aussi de l'approvisionnement régulier en carburant. Nous prenons en charge les chauffeurs, les personnels civils qui se chargent
de l'entretien, des déplacements, des
escadrons qui sont affectés à la patrouille de notre ville 24 heures sur 24 heures. En plus de la sécurité, nous organisons, en plus des charrois que nous avons dotés à notre police, nous organisons régulièrement au niveau de la ville des patrouilles et même des bouclages ciblés pour essayer de mettre hors d'état de nuire toutes les personnes mal intentionnées qui s'évertuent, tous les malfaiteurs,
oui.
Qui s'évertuent à troubler l'ordre public et qui se donne le luxe de priver des nuits paisibles à notre population.
Oui.
Oui, ça c'est du point de vue de la sécurité et nous l'avons fait.
En passant, monsieur le maire, la ville de Colosie a combien d'habitants aujourd'hui?
Oui, donc la ville de Colosie, comme chef-lieu de la province du Lualaba, c'est une ville qui a une superficie d'abord de 213 km², qui a en son sein 2 communes seulement, et une population qui avoisine aujourd'hui 2 millions d'habitants. Et c'est une ville qui est en perpétuelle délocalisation à cause des activités minières. Comme vous le savez, nous avons la réputation d'être une ville minière.
Oui.
Et la capitale mondiale du cobalt comme ça s'est dit depuis un certain temps.
Tout à fait.
Oui, ça c'est sur le plan de la sécurité. Sur le plan de la salubrité, nous avions hérité d'une brigade d'assainissement qui n'avait que 5 camions de 20 tonnes qui pouvaient permettre à ce qu'on puisse ramasser et collecter les déchets par-ci par-là. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé que c'était insuffisant. Et nous avons ajouté à ces charrois 5 camions Pampa 9 d'une capacité de 40 tonnes. Ajouté à cela 2 grosses chargeuses qui permettent à ce que le ramassage des déchets se font régulièrement et de façon professionnelle. C'est comme ça que quand vous circulez sur la ville de Colosie, vous trouvez que sur les artères principales, nous avons quand même assuré, nous continuons à assurer la propriété. Une salubrité un peu plus acceptable.
Il y a des poubelles un peu partout.
Des poubelles, on n'en a pas encore. Il y a une politique qui est déjà en chantier, qui est en chantier. Nous sommes en train de lancer des appels d'offres et même les sociétés ont déjà été choisies à qui nous avons confié la charge de nous produire des poubelles basculantes. Des poubelles basculantes que nous allons mettre partout sur les artères principales, dans les lieux publics, pour permettre à ce que nous puissions décréter dans les tout prochains jours Colwezi, ville sans bouteilles en plastique. Donc on ne pouvait pas le faire sans que les structures qui pouvaient accompagner cette politique n'étaient pas encore mises en place. Hormis les poubelles basculantes, nous avons aussi en chantier, et les sociétés sont déjà choisies, pour que nous puissions faire fabriquer des bacs de grosses capacités que nous pouvons maintenant étaler aussi par-ci, par-là sur l'étendue de la ville,
oui,
pour permettre à ce que la population ne puisse pas jeter les déchets ménagers à même les sols.
Oui.
Qu'on puisse avoir cette culture-là, que quand nous générons des déchets comme ça, on doit les mettre dans des endroits appropriés pour permettre à notre charroi de pouvoir les dégager et les amener à la décharge publique. Toujours dans le cadre de la salubrité, nous avons décrété avant la saison des pluies, nous avons décrété l'opération d'écurage des drains. Et cette opération-là nous a permis, avec les pluies qui sont venues, ça nous a permis d'épargner à la ville, par exemple, des phénomènes des inondations. Parce que toutes les canalisations ont été curées et toutes les eaux sont canalisées vers les endroits appropriés. Ce qui fait que nous avons vraiment, quand vous circulez dans la ville, vous voyez que nous n'avons pas ces phénomènes-là des inondations. C'est à cause de cette politique que nous avons mise en place.
Mais il y a plutôt un phénomène, les têtes d'érosion menacent la ville, avancent dangereusement dans certains quartiers de Colwezi.
Oui, oui. Maintenant, là, il faut faire attention parce que la ville de Colwezi n'est pas celle que les gens se représentent. Parce que la ville de Colwezi, nous sommes vraiment en conflit perpétuel avec les territoires de Mouchacha. Parce que déjà, quand vous êtes à Mwangeji, à côté de la clinique que le président de la République était venu inaugurer, déjà à partir de là, jusque à 57 kilomètres, vous êtes dans les territoires de Mouchacha. Déjà, notre gouvernorat, les bureaux qui hébergent l'administration du gouvernorat de la province, sont dans les territoires de Mouchacha. L'assemblée provinciale, le siège de l'assemblée provinciale se trouve aussi dans les territoires de Mouchacha. Alors que c'est une contradiction par rapport à notre constitution qui veut que le chef-lieu de la province du Lualaba, c'est Colwezi, et que les institutions provinciales devaient être installées en principe dans la ville de Colwezi. Donc il y a ce phénomène-là. Donc si vous remarquez qu'il y a des érosions, figurez-vous déjà que vous n'êtes pas à Colwezi, mais vous êtes dans les territoires voisins, les territoires de Mouchacha.
Oui, oui. Et c'est lié à l'exploitation minière ou aux inondations?
Non, c'est lié à une politique, au manque d'une politique d'aménagement du territoire. Parce que quand vous allez vous visiter certains quartiers là, dans les territoires de Mouchacha, il n'y a pas l'urbanisation, donc les gens construisent comme ils veulent, il n'y a pas d'aménagement des routes, il n'y a pas de canalisation. Oui, oui, c'est ça qui crée ces phénomènes-là. Et aussi, c'est le fait que les déchets, il n'y a pas une politique de gestion de nos déchets ménagers. Donc quand les gens produisent les déchets, ils pensent que la solution, c'est les enfouir sous terre. Ils pensent que la solution, c'est de jeter les plastiques partout comme ils
veulent. Est-ce qu'il y a une politique pour les transformer en compost ou voilà,
oui,
transformer ces déchets en pavés?
Oui, ça, c'est parmi les chevals de bataille de notre vision. Parce que notre vision, à la tête de la ville de Colwezi, en matière d'assainissement, nous voulons apporter une solution définitive. La solution définitive passe par la collecte de façon professionnelle avec les tri le système de tri à la base jusqu'à la transformation. Parce que nous voulons transformer. Quand nous transformons, c'est alors que nous ferons de nos déchets une matière première. Et quand nous arriverons à ce stade-là de faire de nos déchets une matière première, je vois que l'assainissement à ce moment-là sera l'affaire de tous. Parce que tout le monde voudra chercher les déchets, voudra les trier à la base et les amener au niveau des usines de traitement, ce qui fera un gain, qui apportera un gain à tout celui qui s'intéressera à cette question.
Il y a déjà des projets dans ce sens, des partenariats.
Oui. Non, pas des partenariats encore de façon formelle, mais nous avons des contacts avec des investisseurs qui veulent venir nous aider et nous apporter les modèles, un tel modèle de transformation dans notre ville d'écologie. Et les pourparlers, les discussions sont suffisamment avancées. Nous osons croire que avant le deuxième semestre de cette année, nous pourrons déjà arriver à formaliser certains échanges que nous avons eus avec certains investisseurs qui veulent venir dans ce secteur.
Monsieur le maire Jacques Masséo, est-ce qu'on a une idée sur le nombre de tonnes de déchets produits journalièrement dans votre pays?
Oui, au regard des nombres de camions qui constituent notre charroi, nous pouvons affirmer sans peur d'être contredit que nous produisons entre, du moins avec la capacité actuelle, parce qu'on n'atteint pas tous les ménages, mais avec la capacité actuelle, nous sommes capables de produire 500 à 750 tonnes de déchets par jour.
Maintenant parlons en ce qui concerne les infrastructures. Quel bilan peut-on établir dans ces secteurs-là?
Oui, en ce qui concerne les infrastructures, les routes d'abord par rapport aux routes, nous sommes sur un chantier de 14 kilomètres de routes asphaltées. Et sur ces 14 kilomètres, nous avons déjà terminé 7 kilomètres et nous les avons déjà mis à la disposition de notre population. Les 7 autres kilomètres sont encore en chantier et d'ici là, les travaux seront terminés et nous allons les livrer pour leur utilisation au niveau de notre population. Nous avons initié et construit les cimetières modernes. Nous avons initié et construit le tribunal de paix et son parquet prêt, déjà livré. Nous avons travaillé sur le projet de la mutuelle de santé que nous avons offert au corps syndical et aux enseignants pour que cette mutuelle puisse être effective dans notre ville de Colézy. Et nous avons encore d'autres chantiers, par exemple les chantiers du bâtiment administratif de la ville de Colézy, parce que il vous souviendra que les bâtiments administratifs que nous utilisons aujourd'hui datent de 1959, donc avant l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Donc c'est un bâtiment très vieux. Nous avons estimé utile et important de doter notre administration municipale d'un nouveau bâtiment qui est un bâtiment en pleine construction. Ça sera
R plus 4.
Okay. Ça sera livré si tout se passe comme prévu, je crois, entre le mois de septembre et le mois d'octobre.
2026,
oui. Okay. Parce que les travaux avaient déjà été amorcés depuis fin de l'année passée. Et aujourd'hui, je crois que au rythme avec lequel nous sommes en train de travailler, je pense que nous pouvons arriver à les réceptionner entre septembre et octobre. Et ça sera une fierté pour la population de Colézy de pouvoir assister à la réception d'un tel bâtiment,
oui,
qui a été construit pour eux et pour leur fierté et par rapport à la ville de Colézy. Donc ça,
vous avez initié aussi la construction des écoles, des quelques écoles primaires.
Oui, oui. Nous avons commencé avec deux écoles cette année, l'année passée, l'école Mavuno et l'école Kamanyola. Et l'école Mavuno, c'est une école qui a été construite dans un quartier très défavorisé, donc dans le quartier 5 ans, comme on a tous l'habitude de dire, 5 ans, et de dénommer. Et l'école Kamanyola, c'est une école qui a été construite dans les camps militaires pour les enfants des militaires. Oui, oui. Maintenant, pour cette année, nous avons lancé la construction encore de 4 nouvelles écoles, mais cette fois-ci, ça sera dans les confessions, dans les communautés religieuses. Oui. Donc, nous avons sollicité et obtenu des endroits pour construire ces écoles dans la communauté catholique, méthodiste, adventiste et kimbanguiste. Donc, les places sont déjà accordées. Les endroits ont été déjà déterminés. Maintenant, il nous reste maintenant à nous de pouvoir poser les premières pierres. Et pour lutter contre les marchés pirates, nous avons initié les travaux de construction de 3 marchés. 3 marchés au niveau, un marché au niveau des quartiers Mutoshi, un autre au niveau de l'avenue Katokokombe et l'autre au niveau de la, du quartier Diour. En plus de ça, dans les cadres sportifs, nous avons initié la construction d'un terrain de basket qui pourrait être utile pour l'encadrement des talents des jeunes gens qui veulent faire le basket. Et dans notre vision d'encadrement de la jeunesse, en termes de sport, nous avons initié un projet qui se développe autour d'un noyau, un projet qui se développe autour d'un noyau d'une équipe de foot masculin. Et cette équipe-là porte le nom de Conlusi Sport. Nous voulons donner un modèle d'encadrement de la jeunesse et que notre politique et notre vision va se développer autour de cette équipe pour que plus tard, nous puissions avoir des équipes de basket qui appartiennent à la ville, des équipes de rugby qui appartiennent à la ville, des équipes de natation qui appartiennent à la ville, des équipes d'athlétisme qui appartiennent à la ville et pour couronner le tout, créer une infrastructure sportive omnisport autour de laquelle tous les talents de la ville peuvent venir développer chacun dans son domaine,
dans son secteur,
oui. Les talents qu'il a hérité de Dieu pour peut-être bâtir sa vie.
Bénéficier la communauté.
Oui, peut-être bâtir sa vie autour de ça. Parce que nous avons vu des gens gagner leur vie à partir du sport.
Tout à fait. Oui. Alors, monsieur le maire, nous savons que Conlusi est une ville qui fait parler d'elle à travers le pays, mais nous savons que cette ville est beaucoup plus une ville minière et qu'il y a autour de 250 000 jeunes qui sont dans l'artisanat minier. Est-ce que vous avez un programme par rapport à l'encadrement de ces jeunes qui seraient tout peut-être dans l'artisanat minier parce qu'ils n'ont pas autre chose à faire? Ils pensent que la vie, c'est seulement la mine.
Ah oui, ça c'est bien, c'est une question pertinente. Et dans le cadre d'encadrer la jeunesse, d'abord les enfants de la rue, la ville a un projet de construction d'un orphelinat et ça sera fait cette année parce que ça a été retenu dans les prévisions budgétaires. Nous allons construire un orphelinat pour prendre les enfants les enfants abandonnés pour les amener dans ces centres-là où ils pourront avoir une formation sur un métier X et qu'à l'issue de cette formation-là, ils peuvent être utiliser auprès de nos sociétés minières pour être encadrés. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, c'est le méga projet sportif que je venais d'évoquer tout à l'heure là, pour essayer, parce que les enfants se retrouvent dans les sites miniers après l'école, ou d'autres ne vont pas à l'école. Oui, parce que ils n'ont pas autre chose à faire.
Tout à fait.
Comment ils peuvent se développer, ils peuvent développer les talents qu'ils ont en eux si nous n'avons pas des infrastructures. C'est comme ça que moi, je me bats. Le terrain est là. La concession que nous avons sur laquelle sera érigé seront érigées ces infrastructures omnisports sont disponibles et des contacts avec certains financiers au niveau international qui sont intéressés pour venir, par exemple, encadrer la jeunesse, ont déjà été pris.
Est-ce que avez-vous des programmes de jumelage avec des villes d'ailleurs?
Oui, nous avons voulu d'abord, au lieu d'aller en dehors du Congo, nous avons d'abord voulu consolider la collaboration entre les institutions au niveau local. C'est comme ça que nous avons déjà commencé les pourparlers qui sont déjà très avancés avec la mairie. Et la mairie de Lubumbashi, la mairie de Likasi et la mairie de Matadi, la mairie de à l'équateur là, il y a Imananga, Nopambandaka, il y a
la réalité
Ngemena, la mairie de Ngemena. Oui. Nous avons des pourparlers très avancés pour que nous puissions d'abord cimenter notre cohésion au niveau national. Partager les expériences, parce que nous avons les mêmes expériences, nous avons les mêmes difficultés, et pour après envisager aller en dehors, parce que même si nous voulons aller en dehors de nos frontières, il faut amener quelque chose.
Tout à fait. On a pris beaucoup de temps, ça s'est mis une petite intimité à la fin de cet entretien. Alors, quelle est la vision de M. Jacques Massengo-Kindele pour le développement de Kolwezi dans 5 ans et dans 10 ans? Et comment comptez-vous mobiliser les moyens pour réaliser vos rêves?
Oui, oui, exactement. Ça, c'est très important parce que on peut avoir une vision, mais si la vision n'est pas accompagnée des moyens, cette vision restera une intention pieuse, comme on a toujours l'habitude de le dire. Nous voulons d'abord mobiliser les moyens parce que nous sommes une entité territoriale décentralisée. Nous avons une autonomie financière. Et cette autonomie financière est cristallisée par les taxes qui sont consacrées par la nomenclature de 2018, où on nous donne différentes taxes que nous devons mobiliser pour avoir les moyens de notre politique. Nous sommes apesantis sur la taxe d'assainissement. Nous développons toutes nos stratégies autour de cette taxe d'assainissement.
Il y a même toute une nomenclature, une taxe que vous avez lancée au début de cette année.
Oui, nous avons lancé cette nomenclature avec une nouvelle stratégie, par exemple, la digitalisation. On a voulu aller avec la digitalisation pour nous permettre de travailler dans la transparence et de récolter tout ce qui doit être canalisé à la ville. Et dès que nous avons les moyens de la ville, les moyens de notre politique, à ce moment-là, on peut financer certains projets de développement. Nous avons besoin de soutenir, de financer les projets autoporteurs. Par exemple, nous avons notre société. Nous avons créé une société de transport de personnes qui s'appelle Sotracol, Société de transport d'écologie, que nous avons créée et à laquelle, je crois, nous avons doté, au cours de cette année, nous avons doté 10 bus. 10 bus dont chacun a une capacité de 63 places.
Pour
l'autofinancement.
Donc, monsieur le maire, on a pris beaucoup de temps.
Oui.
Merci beaucoup d'avoir accepté de vous prêter à cet échange pour parler de vous, de votre parcours et de votre vision de développement de la ville de Kolwezi. Merci.
Merci beaucoup.
Fidèles auditeurs, c'est par ici que s'achève ce magazine Grand Témoin qui a eu l'honneur de recevoir Maître Jacques Massengo-Kindele, maire de Kolwezi. Merci pour votre aimable attention. À la prochaine.